terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever.
Voilà, on est un petit peu dans l'ambiance grâce à ce générique. Allez, je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue, hein, Michel, avant que vous attaquiez la chronique. Donc, ravi de vous retrouver. On a décalé par rapport à mercredi, mais là, il fait un petit peu plus frais. Donc, bonjour, bienvenue, Michel.
Bonjour, Joël.
Voilà, puis on va... Vous allez, hein, pas chaque fois je dis on va, mais c'est vous qui faites tout le travail de réalisation, de préparation et voilà, à l'antenne. Alors, pour ouvrir cette chronique Astro numéro 135, voilà, vous allez nous parler de l'actu et le ciel qui a failli nous tomber sur la tête samedi. Carrément, Michel.
Oui, alors bien entendu, ce n'est qu'une blague avec un petit clin d'œil à nos ancêtres gaulois. Mais nos auditeurs ont pu entendre dans les médias que la Terre était frôlée par un astéroïde samedi 27 juin à 13h14. Alors, frôler est un terme bien inquiétant, sachant qu'il ne s'est pas approché à moins de 2,5 millions de kilomètres de nous, soit dans les 7 fois la distance Terre-Lune. Ce rapprochement était prévu de longue date, car 1997 NC1, c'est son nom, a été découvert il y a presque 20 ans, en 1997, comme l'indique son immatriculation, et sa trajectoire était bien connue après de très nombreuses observations. Aucun risque de collision, bien sûr, mais une observation possible pour les astronomes amateurs, car avec une taille estimée à environ 1 km, hein, on pense entre 750 mètres et 1650, et ce rapprochement à faible distance, il atteignait une luminosité suffisante, hein, en astronomie on dit une magnitude d'environ 10, pour le rendre facilement visible dans des petits instruments d'amateurs, comme un petit point brillant au milieu des étoiles. Pas lors de son passage au plus près, puisque c'était en plein jour pour nous, mais la nuit précédente pendant qu'il approchait, ou la suivante quand il s'éloignait. Malheureusement, la forte clarté de la Lune n'était pas très propice, et la météo d'ici non plus, avec les orages de samedi soir et déjà quelques passages nuageux le vendredi. Personnellement, j'avais envisagé de faire une série de photos pour montrer le déplacement de l'astéroïde devant le fond étoilé, très lentement, avec une vitesse analogue à celle de la Lune, mais juste après le match des Bleus, l'arrivée de petits nuages s'approchant de la zone à photographier m'a fait renoncer à ce projet. Il est passé assez loin de nous, mais je rappelle à nos auditeurs qu'avec une taille d'environ 1 km, si un tel astéroïde venait à frapper la Terre, il y creuserait un cratère d'environ 20 km de diamètre, soit la taille de l'agglomération bordelaise de ce nom à l'aéroport de Mérignac, et occasionnerait des dégâts importants à l'échelle de la région, voire de la France entière, dépassant toutes les catastrophes naturelles connues. Bien entendu, il aurait de bonnes chances de tomber dans un océan, puisqu'il couvre environ 70% de la Terre, mais ça serait encore pire, avec un gigantesque tsunami détruisant des centaines de kilomètres de zones côtières. La meilleure chance serait qu'il percute une région continentale désertique, comme le cœur du Sahara, le désert de Gobi ou l'Atacama, par exemple.
Et des inquiétudes, hein, Michel, sur le calendrier du retour sur la Lune des Américains.
La dernière fois, j'avais parlé du 12e tir d'essai d'un Starship, le premier de la nouvelle version V3, qui n'était qu'un demi-succès avec plusieurs problèmes, notamment des nouveaux moteurs. J'indiquais que ces retards répétés dans la mise au point de ce vaisseau de SpaceX, censé être utilisé pour se poser sur la Lune et en redécoller, le HLS, Human Landing System, tel que défini par la NASA, conduisait l'agence spatiale à revoir peut-être son choix en prévoyant de le remettre en concurrence avec le module Blue Moon de Blue Origin. D'ailleurs, dans une présentation plus détaillée de la future mission Artemis 3, qui doit répéter en orbite terrestre les manœuvres du vaisseau lunaire avec la capsule Orion, la NASA a annoncé que le test serait fait avec les deux solutions. Le déroulement serait le suivant. décollage du Blue Moon avec la fusée New Glenn pour se mettre en orbite, puis la capsule Orion et son équipage propulsé par le SLS de la NASA viendra s'y amarrer pour 2 jours de test avec transfert des astronautes d'un vaisseau à l'autre. Ensuite, ce sera le décollage du Starship pour un amarrage avec Orion, mais sans y transférer les astronautes car il n'est pas encore suffisamment prêt. Malheureusement, à ce jour, il n'est pas du tout certain que cette mission puisse avoir lieu mi-2027 comme prévu, car il y a 2 problèmes. Les essais du Starship prennent du retard et il n'a pas encore réussi une véritable mise en orbite, ne réalisant jusqu'à présent qu'un vol suborbital du Texas à l'océan Indien, ce qu'il devrait d'ailleurs retenter en juillet. De l'autre côté, Blue Origin a connu un gros revers le 28 mai dernier, car son lanceur New Glenn a explosé lors d'un essai statique de ses moteurs au sol, endommageant gravement le pas de tir 36 du Centre spatial Kennedy qui lui est dédié. Selon les observateurs, sa remise en état prendra plusieurs mois. Donc, encore de probables reculs du calendrier d'Artemis, qui dans le meilleur des cas ramènerait les Américains sur la Lune en 2028 avec Artemis 4. Malgré les incertitudes sur le planning, la NASA a présenté les astronautes sélectionnés pour composer l'équipage d'Artemis 3. Il s'agit des Américains Randy Bresnik, commandant, qui est déjà allé 2 fois dans l'espace, à bord de la navette Atlantis en 2009, puis en 2017 sur l'ISS. Frank Rubio, qui détient le record de séjour dans l'ISS pour un Américain avec 370 jours. Et André Douglas, dont ce sera le premier vol spatial. Le 4e est un spationaute européen de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, l'Italien Luca Parmitano, qui a déjà séjourné 2 fois à bord de l'ISS, en 2013, où il a failli se noyer dans son scaphandre dont le casque se remplissait d'eau lors d'une sortie extravéhiculaire, puis en 2019, pour un total de 366 jours passés dans l'espace. Il sera le pilote d'Artemis 3, donc principal responsable des opérations avec les modules lunaires.
Et des projets de base lunaire.
Oui, alors afin d'amortir pour ses partenaires le choc de l'annulation abrupte de la Lunar Gateway pour les futures missions Artemis, une station en orbite autour de la Lune à laquelle devaient venir s'amarrer Orion et le HLS pour le transfert des astronautes, la NASA essaie d'envisager le réemploi des modules déjà développés par l'ESA. L'administrateur de l'agence américaine, Jared Isaacman, avait déjà annoncé que le module de propulsion, PPE, serait utilisé dans une future mission martienne, qui est son obsession, comme pour son mentor Elon Musk. Selon Lori Glaze, administratrice chargée des systèmes d'exploration, le module d'habitation Halo pourrait être installé sur la surface lunaire dans le cadre de la future base lunaire permanente voulue par Isaacman et pour laquelle il est prêt à dépenser 20 milliards de dollars sur les 7 prochaines années, dont 25 lancements sans équipage d'ici 2029, ce qui me paraît très optimiste, pour ne pas dire irréalisable. À croire que les revirements de la NASA dans ses projets lunaires ouvrent une sorte de brocante des matériels spatiaux inutilisés. Et pendant ce temps-là, les Chinois semblent avancer régulièrement pour poser un taïkonaute sur la Lune avant 2030.
Et des astronautes français dans l'espace en 2027.
Oui, alors c'est lors du machin « Choose France » à Versailles, que le président Macron a annoncé le 1er juin que 2 spationautes français devraient partir dans l'espace en 2027. Le premier est bien connu du public puisqu'il s'agit de Thomas Pesquet, qui a déjà séjourné 2 fois 6 mois dans l'ISS, en 2016-17, puis en 2021. Le second est Arnaud Prost, qui a été recruté par l'ESA en 2022, comme Sophie Adnaud, actuellement en mission sur l'ISS. Dans les 2 cas, il s'agira de missions opérées avec la société privée VAST, créée en 2021. Pour Thomas Pesquet, ce sera un nouveau séjour à bord de l'ISS, mais de seulement 15 jours, avec un trajet effectué à bord d'une capsule Crew Dragon de SpaceX. Pour Arnaud Prost, ce sera à bord de Haven 1, une station spatiale privée que VAST développe en vue de la poursuite des vols orbitaux après l'arrêt de l'ISS, dont le retrait est plus ou moins planifié pour 2030. La station de VAST n'a rien à voir avec l'ISS actuelle, car elle ne pourra accueillir que 4 astronautes dans un volume d'environ 80 mètres cubes, même pas 1/10 de l'ISS. En fait, elle se présente plutôt comme une capsule d'environ 10 mètres de long. À terme, VAST prévoit de pouvoir connecter plusieurs de ses modules, ou du futur Haven 2 plus grand, afin de constituer une station nettement plus grande, envisageant même un bâton tournant de 110 mètres de long, dont la rotation permettrait de recréer une gravité artificielle, concept bien connu des amateurs des films de science-fiction depuis 2001, l'Odyssée de l'espace. D'autre part, Vast n'exclut pas l'utilisation de ces stations pour de riches clients privés qui souhaiteraient s'adonner au tourisme spatial.
Et des petits points rouges qui intriguent les astronomes.
Alors, depuis la mise en service à l'été 2022 du JWST, le télescope spatial James Webb, il réalise notamment des images de galaxies très lointaines pour essayer de découvrir les plus anciennes, ainsi que les étoiles de la première génération après le Big Bang, une des missions principales pour laquelle il a été conçu. Et les astronomes ont découvert sur ces photos des centaines de petits points rouges très intrigants dont ils n'arrivent pas à déterminer la nature. En effet, ils sont jugés trop compacts pour être des galaxies ordinaires et trop lumineux pour être de simples amas d'étoiles. Ils sont surnommés LRD, pour Little Red Dot, petit point rouge en anglais. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de petites galaxies primitives, anormalement denses, dont la fusion ultérieure aurait produit les grandes galaxies qui nous sont plus familières. Mais cela nous oblige à revoir nos modèles de formation de galaxies qui ne prévoient pas ce genre d'objets. Une publication récente, le 20 juin dernier, dans The Astrophysical Journal, apporte peut-être une autre solution à ce mystère. Elle rapporte l'observation menée par Vasily Kokorev, de l'Université du Texas, d'un de ses LRD baptisé GLIMPS 17775, du nom du programme GLIMPS du JWST consacré à l'étude de la formation des premières galaxies. Il est tellement éloigné de nous que nous le voyons comme il était seulement 1,8 milliard d'années après le Big Bang, soit guère plus que 10% de l'âge actuel de l'univers. Je rappelle à nos auditeurs qu'en raison de la vitesse de la lumière finie, plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde loin dans le passé. À cette distance, il devrait être invisible pour les instruments du JWST. Sauf que nous avons la chance d'avoir interposé entre nous et lui un gros amas de galaxies, Hubble S1063, dont la masse énorme courbe tellement l'espace-temps, donc les rayons lumineux, l'effet qu'on appelle lentille gravitationnelle, que le petit objet lointain nous apparaît 80 fois plus brillant qu'il ne devrait. Un peu comme le ferait une gigantesque lentille placée dans l'espace entre nous et lui. En conséquence, les instruments du JWST ont pu en réaliser un spectre suffisamment précis pour y identifier 40 raies permettant de caractériser sa composition. Et le résultat est très surprenant, car il semble décrire un objet totalement différent d'une galaxie. Il s'agirait d'un trou noir supermassif, comme ceux qu'on trouve au centre des grandes galaxies, mais en train de se former au sein d'un énorme nuage de gaz. En effet, la matière qui tombe sur un tel trou noir émet d'énormes quantités d'énergie, principalement sous forme de rayonnements très énergétiques comme les rayons X, mais quand cela se produit au sein d'un nuage de gaz très dense, ils sont absorbés par la matière pour être réémis dans des longueurs d'onde différentes, notamment infrarouge, ce qu'on voit dans ce spectre et qui explique la couleur rouge captée par le JWST. Dans l'article, les astronomes désignent ce nouveau type d'objet comme des étoiles à trous noirs. Cette interprétation a l'avantage de réconcilier l'observation avec les théories cosmologiques, car celle-ci prévoit que des trous noirs se soient formés directement au sein de nuages de gaz au début de l'univers, et non lors de la fin catastrophique d'étoiles massives comme on l'observe aujourd'hui. Et cela pourrait expliquer comment se sont formés très tôt dans l'histoire de l'univers les trous noirs supermassifs qu'on trouve aujourd'hui au cœur des galaxies, qui auraient pu se former grâce à leur attraction énorme, un peu comme s'ils étaient les graines initiales leur donnant naissance. Jusqu'à présent, on n'avait pas d'indice sur la formation de ces énormes trous noirs de plusieurs millions de fois la masse du Soleil, quand ce n'est pas plusieurs milliards.
Allez, on est toujours en direct sur Eau de Radio avec Michel Favret pour sa chronique astro numéro 135. Et là, Michel, vous allez aborder la deuxième partie avec le thème du mois, les saisons, la canicule et le réchauffement climatique.
Oui, avec le solstice d'été du dimanche 21 juin, jour le plus long de l'année, et entrée officielle en été, à 10h24 si on veut être précis, j'ai pensé que le thème des saisons était d'actualité, même si c'est un peu un marronnier que nous avons déjà évoqué trois fois ces dernières années. Mais la dernière fois, c'était en septembre 2019. Je crois qu'il y a des connaissances fondamentales à répéter de temps en temps pour qu'elles deviennent familières à nos auditeurs, comme les bases de la mécanique céleste, donc des mouvements de notre planète, la Terre. Pour commencer, on peut tout de suite tordre le cou à une idée complètement erronée, stipulant que les saisons seraient en rapport avec la distance Terre-Soleil. Comme l'orbite de la Terre autour du Soleil est une ellipse, comme pour toutes les planètes, ainsi que nous le dit la première loi de Kepler, on pourrait croire que l'hiver, ou période froide de l'année, correspondrait à la partie de l'orbite où nous sommes les plus éloignés du Soleil, et à l'inverse l'été, ou période chaude, quand nous sommes au plus près. Cela ne résiste pas à l'examen d'éléments très simples, comme le fait que le passage de la Terre au plus loin du Soleil se déroule début juillet, le 6 juillet cette année, alors que nous sommes en plein été, et d'autre part que les saisons sont inversées entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc selon où l'on se trouve sur Terre, on peut être le même jour, soit en été, soit en hiver, alors que nous sommes tous à la même distance du Soleil. La distance au Soleil n'a donc rien à voir avec les saisons. Et d'ailleurs, l'ellipse parcourue par la Terre est tellement circulaire, comme pour toutes les planètes, que la variation de distance est très faible, sans aucun rapport avec les différences de température au fil des saisons. Tout est en fait une question d'inclinaison de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil, ce qu'on peut tous voir très facilement en regardant un globe terrestre dont l'axe de rotation nord-sud est toujours représenté incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à la verticale. Essayons de nous représenter cette configuration dans le ciel, comme si nous étions dehors par une belle nuit étoilée. Le pôle nord nous est indiqué par l'étoile polaire, à environ 45 degrés au-dessus de l'horizon. Le pôle sud, invisible, car sous la Terre pour nous, est à l'opposé. Comme notre œil n'arrive pas à distinguer les distances variables des étoiles par rapport à nous, nous les imaginons comme placées sur une grande sphère, la fameuse voûte céleste. Si on la coupe en deux à égale distance des pôles, cela dessine un grand cercle qui est l'équateur céleste, exactement comme l'équateur terrestre coupe la Terre en deux à égale distance de ces deux pôles. D'ailleurs, on peut voir l'équateur céleste comme la projection de l'équateur dans le ciel. Cet équateur touche l'horizon à deux points bien particuliers, qui sont l'est et l'ouest. Lorsque c'est l'équinoxe, le Soleil se situe pile sur l'équateur céleste, et donc ce jour-là, ou plus exactement ces deux jours-là, puisqu'il y a un équinoxe d'automne autour du 22 septembre et un de printemps autour du 21 mars, le Soleil se lève pile à l'est et se couche pile à l'ouest. Autre particularité des équinoxes, la durée du jour et celle de la nuit sont égales, chacune à 12 heures, partout sur Terre, ce que veut dire le mot équinoxe, c'est-à-dire nuit égale en latin. En réalité, il y a 12 heures entre le lever et le coucher du Soleil, mais ce n'est pas réellement la durée du jour si on tient compte de l'aube et du crépuscule, ces moments avant le lever ou après le coucher où il ne fait pas vraiment nuit. Sous notre latitude, la vraie nuit noire ne dure qu'environ 10 heures aux équinoxes. Cette position du Soleil pile sur l'équateur est très particulière, car à cause de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, sa trajectoire apparente dans le ciel en un an, un grand cercle nommé écliptique, car c'est là que se produisent les éclipses, est inclinée d'environ 23,5 degrés par rapport à l'équateur. Donc pendant la moitié de l'année qui a commencé le 21 mars, il se situe au-dessus de l'équateur, et c'est la période chaude, car il se lève et se couche plus au nord, et reste donc plus longtemps levé, et monte plus haut dans le ciel, les deux facteurs contribuant à réchauffer l'hémisphère nord de la Terre. Et l'autre moitié de l'année, qui commencera le 23 septembre à 2h05, il est sous l'équateur, se lève et se couche plus au sud, donc reste moins longtemps dans le ciel, et y monte moins haut, deux facteurs contribuant à refroidir notre hémisphère. Et pour les terriens de l'hémisphère sud, qui pour faire simple ont la tête en bas et les pieds en haut par rapport à nous, la situation est inversée, le Soleil étant par exemple au-dessous de l'équateur pour eux, quand il est au-dessus pour nous. Et donc les saisons sont inversées. C'est aussi simple que cela.
Alors vous ne définissez que deux périodes dans l'année, mais il y en a en réalité quatre saisons, non ?
Oui, alors pour cela il faut considérer deux autres repères dans le calendrier. Les points extrêmes de la position du Soleil au-dessus et au-dessous de l'équateur qui sont appelés solstices. Un en été autour du 21 juin et l'autre en hiver autour du 21 décembre. Les dates des solstices et des équinoxes pouvant légèrement varier d'une année à l'autre en raison des années bissextiles. Le mot solstice vient du latin signifiant « le soleil s'arrête » et s'explique facilement. Si on regardait chaque soir le coucher du soleil en prenant des repères à l'horizon, à partir du dimanche 21 juin où il était presque au nord-ouest, on le verrait dériver jour après jour vers le sud jusqu'au solstice d'hiver où il arrête cette dérive sud pour repartir dans l'autre sens. Même s'il n'existe vraiment qu'une période chaude et une période froide dans l'année, ce qui est bien visible dans les zones plus proches de l'équateur où les variations saisonnières sont moins marquées, on a défini conventionnellement quatre saisons, perceptibles surtout dans les zones tempérées comme la France, avec l'hiver jusqu'à l'équinoxe de printemps, puis le printemps jusqu'au solstice d'été, l'été jusqu'à l'équinoxe d'automne, et enfin l'automne allant de l'équinoxe d'automne jusqu'au solstice d'hiver. Ces différences saisonnières sont d'autant plus marquées qu'on se trouve à grande latitude dans l'hémisphère nord ou sud, c'est-à-dire plus éloigné de l'équateur. On sait tous que les hivers sont beaucoup plus rudes dans les régions polaires, où parfois le soleil ne se lève même plus pendant des jours. Tout simplement parce que l'équateur céleste étant presque confondu avec l'horizon, ce qui est exactement le cas au pôle Nord, le soleil situé en dessous ne parvient plus à se lever. Et à l'inverse, en été, il arrive qu'il ne se couche plus. La limite où commence ce phénomène qu'on appelle souvent « soleil de minuit » est le cercle polaire.
Alors, y a-t-il des saisons sur les autres planètes ?
Oui, si leur axe de rotation est incliné par rapport à leur orbite, comme pour la Terre. Mais les effets sont assez différents selon la nature de ces planètes. Pour les quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, comme leurs distances au Soleil sont beaucoup plus grandes, donc elles sont très peu chauffées par le Soleil, et que leurs périodes de révolution autour de lui sont beaucoup plus longues, des dizaines d'années, les variations saisonnières sont beaucoup plus faibles et lentes. Pour les planètes intérieures, c'est aussi très différent. Car Mercure, n'ayant pas d'atmosphère, donc pas d'enveloppe gazeuse pour réguler sa température au sol, les variations quotidiennes y sont déjà énormes, entre les zones ensoleillées à environ 400 degrés ou à l'ombre de l'ordre de moins 180. Vénus, avec son atmosphère épaisse constituée principalement de CO2, provoquant un effet de serre catastrophique, présente à l'inverse très peu de variations, avec une température infernale de l'ordre de 450 degrés partout et tout le temps. La planète du système solaire qui aurait le plus de similitudes avec la Terre est bien sûr Mars, qui a une inclinaison assez comparable à la nôtre, environ 25 degrés, et une durée du jour similaire d'environ 25 heures. Mais il y a deux différences importantes. Comme la période de révolution de Mars est environ le double de celle de la Terre, l'année martienne dure environ 2 ans terrestres, les saisons sont aussi 2 fois plus longues. L'autre grande différence est l'atmosphère martienne, beaucoup plus tenue que celle de la Terre, même pas 1/100 de la pression au sol, qui n'est pas en capacité de bien retenir la chaleur solaire et de réguler les températures. Comme en plus Mars est environ 50% plus loin du Soleil que la Terre, donc moins bien chauffé, il y fait très froid, la température moyenne étant de l'ordre de moins 60 degrés. Mais il y a des variations saisonnières et en été, près de l'équateur, en milieu de journée, la température de surface peut même dépasser les 30 degrés. Mais elle redescendra très largement en dessous de zéro la nuit suivante. Ces saisons sont à l'origine de grandes tempêtes de sable qui obscurcissent périodiquement la surface martienne, ayant fait croire au XIXe siècle qu'il y avait une végétation à la surface avec des cycles saisonniers, concept qui s'est encore renforcé avec la découverte des prétendus canaux martiens, par Schiaparelli puis Lowell, faisant imaginer la présence d'une civilisation ayant construit tout un système d'irrigation pour apporter l'eau des zones polaires vers les cultures implantées dans les zones équatoriales plus tempérées. D'où toute la mythologie des petits hommes verts, inaugurée par l'apparition de la fameuse « Guerre des mondes » de H.G. Wells, publiée en 1898. Comme quoi, les cycles des saisons peuvent donner lieu à des interprétations imprévisibles lorsqu'il est observé de très loin.
Et la canicule, comme celle que nous venons de vivre et avons déjà connue en mai ?
Alors si on veut être pointilleux, il ne s'agit pas de la véritable canicule, puisque la vraie, si je peux dire, est habituellement située entre la mi-juillet et la mi-août, car elle est définie astronomiquement. En effet, les Romains avaient remarqué que ces semaines les plus chaudes de l'année, en général, même si ça peut varier selon la météo de chaque année, se déroulait pendant la période où l'on peut voir l'étoile Sirius se lever brièvement le matin avant que l'aube la fasse disparaître. En astronomie, on appelle ce phénomène un lever héliaque, c'est-à-dire l'apparition visible d'une étoile peu avant l'arrivée du Soleil. Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel, et elle a été particulièrement remarquée par de nombreuses cultures, par exemple identifiée par les Égyptiens comme leur déesse Isis. Elle fait partie de la constellation du Grand Chien, bien visible en hiver aux côtés d'Orion. En latin, le Grand Chien, c'est Canis Major, et les Romains nommaient cette étoile Canicula, c'est-à-dire la petite chienne. Donc la période la plus chaude de l'année était celle de Canicula, devenue canicule en français. Le problème, c'est que de nos jours, les périodes chaudes sont plus fréquentes et surviennent de plus en plus tôt, comme en mai dernier, ce qu'on n'avait jamais vu auparavant. Il n'y a aucun doute que c'est directement un effet du réchauffement climatique, comme l'ont expliqué à longueur d'antenne toutes les émissions qui débattaient de ces pics de chaleur extrêmes et imprévus. Ce réchauffement climatique est dû à une présence de plus en plus forte de gaz à effet de serre, notamment le fameux CO2, qui voit à Vénus sa chaleur extrême de 450 degrés, car il y compose 95% de son atmosphère. Et c'est nous qui sommes directement responsables de cette évolution néfaste, en ayant enrichi notre atmosphère avec ces gaz, depuis le début de l'ère industrielle, il y a environ 200 ans, notamment par l'extraction et la combustion des énergies fossiles, d'abord le charbon, puis le pétrole, alors qu'ils avaient été fabriqués pendant des millions d'années par les végétaux qui avaient retiré du CO2 de l'atmosphère par la photosynthèse, stockant le carbone avant d'alimenter ses réserves souterraines après leur mort.
Mais ce réchauffement climatique ne trouve-t-il pas aussi son origine, au moins en partie, dans certains phénomènes astronomiques ?
C'est vrai que certains phénomènes astronomiques sont la cause de variations du climat sur Terre, comme la succession des périodes glaciaires entrecoupées de périodes plus chaudes. Je vais l'évoquer, mais cet argument souvent avancé par les climato-négationnistes ne tient pas pour expliquer la dérive actuelle du climat. Et pour s'en rendre compte, il suffit de consulter les relevés effectués par les climatologues pour constater que le réchauffement actuel est 10 fois plus rapide que tous ceux que la Terre a pu connaître auparavant, ce qui explique que la plupart des espèces animales ou végétales ne parviennent pas à s'y adapter assez vite, comme les arbres, dont la lente migration vers le dehors ne se fait qu'au rythme moyen que de quelques centaines de mètres par an. Et bien sûr, l'espèce humaine, dont la survie peut être en jeu si nous dépassons certaines limites de température moyenne du globe, qui déclencheront des effets incontrôlables quand seront massivement libérés les gaz piégés dans les fonds océaniques ou les sols gelés des zones polaires. Si la Terre s'en sortira toujours, avec un lent retour à la normale comme après les précédents épisodes climatiques extrêmes qu'elle a déjà connus dans son histoire, rien ne dit que l'humanité sera capable d'y survivre, si nous ne faisons pas maintenant le nécessaire pour enrayer au plus vite le réchauffement que nous avons provoqué. Il y a 200 ans, ou même un siècle, on était dans l'ignorance de ce phénomène. Mais aujourd'hui, nous le connaissons parfaitement et nous avons toutes les preuves de notre responsabilité. Et par chance, nous savons ce qu'il faut faire. Il n'y a plus qu'à s'y mettre sérieusement et sans tarder, en y consacrant les moyens nécessaires. Pour un peu, on pourrait imaginer que ce serait un bon sujet, pour ne pas dire le sujet, pour l'élection présidentielle de 2027.
Mais si on en revient à l'astronomie, Michel.
Alors, les périodes glaciaires, où une large portion de l'Europe et de l'Amérique du Nord étaient couvertes de glace et de neige, ont été mises en évidence par les géologues en constatant la présence de certaines formations caractéristiques des glaciers, comme des moraines ou des blocs erratiques, très loin des glaciers actuels. C'est ainsi qu'on a d'abord mis en évidence au début du XXe siècle la dernière période glaciaire, ou glaciation de Würm, il y a environ 12 000 ans. À partir de l'étude géologique du massif alpin, avant de découvrir les précédentes qui se sont succédées plus ou moins régulièrement au cours de la dernière ère géologique, le Quaternaire, c'est-à-dire en gros les 2 derniers millions d'années. Cette périodicité des ères glaciaires a fait penser à un ou plusieurs cycles astronomiques liés au Soleil, puisque c'est lui la principale source d'énergie de la Terre, moteur de notre système climatique, sans oublier que d'autres phénomènes purement terrestres sont aussi à l'œuvre, comme le volcanisme ou la répartition des masses continentales et des océans à la surface de notre planète. On peut donc s'attendre à ce que les variations de l'ensoleillement de notre planète puissent être l'explication des grandes variations du climat dans le passé. Ce n'est pas une idée neuve, car elle a été étudiée par Milutin Milanković, un astronome, géophysicien et climatologue serbe, dès les années 1920. Et il publia au final son analyse mathématique des variations astronomiques du climat en 1941. Ses travaux ont été confirmés en 1976 par la publication d'un article intitulé « Variations in the Earth's Orbits, Pacemaker of the Ice Ages ». Donc si je traduis approximativement, les variations de l'orbite de la Terre, régulateur si on peut dire, des âges de glace. Par trois chercheurs ayant étudié des sédiments profonds prélevés dans l'océan Indien, dans lesquels on pouvait dater précisément les variations du climat sur 450 000 ans, et qui démontraient que leur périodicité était la combinaison des trois rythmes astronomiques de 100 000, 41 000 et 23 000 ans, comme prédit par les calculs de Milankovitch. Et plus près de nous, en 1987, l'analyse des carottes de glace prélevées en Antarctique a permis à une équipe de paléoclimatologues, dont le français Jean Jouzel, de montrer que les variations de température et du niveau de la mer étaient directement liées à la teneur en gaz carbonique CO2 de l'atmosphère.
Alors, à quoi correspondent ces trois cycles astronomiques ?
Il s'agit de variations du mouvement de la Terre autour du Soleil, sachant que l'ensoleillement de la Terre peut aussi varier en fonction de la puissance dégagée par le Soleil. Mais cet effet ne nous est pas encore bien connu, à part le cycle solaire de 11 ans, qui est bien trop court pour intervenir dans les lentes variations du climat. Le plus long de ces cycles de Milankovitch, celui d'environ 100 000 ans, correspond à des variations de l'excentricité de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire le fait qu'elle soit plus ou moins ronde, presque en cercle comme actuellement, ou plus allongée en ellipse. On peut s'étonner que l'orbite de la Terre puisse se déformer quand on pense au système solaire comme une belle mécanique où les planètes orbitent autour du Soleil avec la régularité d'une horloge. C'est mal connaître les lois de la gravité de Newton. Si le mouvement d'un corps, la Terre, autour d'un autre, le Soleil, peut se calculer en résolvant mathématiquement une simple équation, en retrouvant au passage les fameuses trois lois de Kepler, il en va tout autrement d'un système aussi complexe que de multiples planètes en orbite autour du Soleil. À partir du moment où on prend en compte deux planètes et le Soleil, on tombe sur le fameux problème à trois corps, qui n'a pas de solution mathématique et ne peut être que simulé numériquement. Et on sait aujourd'hui que l'attraction des planètes entre elles, notamment l'influence des géants de Jupiter et Saturne, provoque des modifications d'orbite et un certain chaos dans ce qu'on croit être une belle mécanique régulière. Si à certains moments, l'orbite de la Terre a été plus allongée, cela a modifié les saisons, et quand un été plus frais permet aux neiges de l'hiver de persister plus longtemps, le cercle vicieux qui conduit à une glaciation peut s'enclencher. Le deuxième cycle de 41 000 ans concerne l'obliquité de la Terre, c'est-à-dire l'inclinaison de son axe de rotation par rapport au Soleil, dont on vient de voir qu'il est la base des saisons, et qui est également influencé par les autres planètes. Grâce à la Lune, qui joue un rôle d'amortisseur, notre planète est relativement stable sur ce point, bien plus que Mars, par exemple. Mais on estime que cet angle a pu varier entre 22 et 24 degrés et demi, bien loin des 15 à 35 degrés de Mars. Mais qui dit angle plus fort dit saison plus marquée et région polaire plus large, alors qu'un angle plus faible diminue les variations saisonnières. Enfin, le troisième cycle de 23 000 ans environ est bien connu des astronomes. C'est la précession des équinoxes. Il trouve son origine dans l'attraction de la Lune et du Soleil sur le bourrelet équatorial de la Terre, qui se comporte un peu comme une toupie. Quand on lance une toupie, elle a un mouvement de rotation très rapide, mais aussi un mouvement plus lent qui fait décrire un cône à son axe de rotation. Pour la Terre, cela veut dire que son axe pôle nord-pôle sud décrit une lente rotation et que notre étoile polaire actuelle ne le sera plus dans quelques milliers d'années, remplacée par Deneb du Cygne dans environ 8000 ans, puis la très brillante Vega de la Lyre dans à peu près 12 000 ans.
Et ces cycles astronomiques expliquent les grandes variations du climat.
Avec ces calculs, Milankovitch a démontré que la combinaison de ces trois cycles explique la répétition des périodes glaciaires, ainsi que leur plus ou moins grande importance, au moins pour le dernier million d'années. Mais je rappelle à nos auditeurs que s'ils expliquent bien ces grandes variations du climat dans le passé, il en va bien évidemment très différemment avec le changement que nous sommes en train de vivre, car il est beaucoup plus rapide. Avec, par exemple, la teneur en CO2 de l'atmosphère qui a augmenté 10 fois plus vite depuis le début de l'ère industrielle que ce qu'on a pu observer dans les 800 000 dernières années, lors de la remontée de température des périodes interglaciaires. Il nous faut donc nous atteler sans délai à corriger le dysfonctionnement du climat que nous avons provoqué, faute de quoi nous atteindrons des températures insupportables. Les épisodes caniculaires que nous venons de traverser, résultant d'une augmentation de seulement, si j'ose dire, 1,5 degré de la température moyenne en France par rapport à la référence 1850-1900, si nous continuons sur cette mauvaise pente, dans une vingtaine d'années, ce printemps 2026 si étouffant paraîtra plutôt frais par rapport à ce que nous ou nos enfants connaîtrons alors.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute des programmes d'Eau de Radio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. On est avec Michel Favré pour sa chronique Astro numéro 135 dans le cadre de notre journal de ce lundi 29 juin. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique avec le ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxiestoutaupluriel.org. Pour voir les cartes du ciel, hein, difficile à montrer à la radio, et avoir plus de détails. Je la mettrai à jour pour juillet, ce soir ou demain. Venant de passer le solstice d'été du 21 juin, jour le plus long de l'année, donc nuit la plus courte, nous sommes dans une période moins favorable pour les observateurs du ciel nocturne. En effet, en ce moment, le soleil se couche vers 21h45 et la nuit n'arrive que vers 23h15, et même minuit et demi si on attend un ciel bien noir. Fin juillet, les jours auront un peu raccourci et ce sera un peu plus tôt, avec le coucher vers 21h30 et la nuit vers 22h45. Comme l'été vient à peine de commencer, les constellations typiques de la saison occupent la moitié est du ciel, qui est pratiquement partagée en deux avec celle du printemps, peuplant encore la moitié ouest en descendant se coucher. On pourra reconnaître facilement le Lion, situé juste sous les pattes de la Grande Ourse, repérable aux étoiles dessinant sa crinière qui forme comme une faucille. À 23h, il est sur le point de se coucher plein ouest. Avec la fameuse casserole formée par les étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse, on trouve facilement les deux autres constellations du printemps, car en prolongeant l'arc de sa queue, on tombe plein sud, presque plein sud, sur Arcturus, étoile très brillante et légèrement jaunâtre, de la constellation du Bouvier. Et en poursuivant plus loin Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge. Cette région du ciel, derrière le Lion et au nord de la Vierge, est particulièrement riche en galaxies, qu'on peut facilement voir dans une lunette astronomique ou un petit télescope. À l'est, ce sont les constellations de l'été qui se lèvent, repérables à partir des trois étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été. Vega, la plus haute et la plus brillante, Deneb, la plus à l'est, et Altaïr la plus basse, permettant de situer leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Quand le ciel devient assez noir, on peut distinguer le long du Cygne et de l'Aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, nous conduisant vers le sud à deux autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire, pas encore levé en ce moment, et du Scorpion, dont on ne peut encore voir que la tête, avec sa forme d'éventail, formée par quatre étoiles en arc devant la très brillante Antares, étoile facilement reconnaissable à sa couleur orangée. D'ailleurs, elle lui doit son nom de Autre-Mars, hein, Arès chez les Grecs, tant elle ressemble à cette planète actuellement absente du ciel du soir. Toute la région de la Voie lactée est riche en amas d'étoiles et nébuleuses, autant d'objets intéressants à viser avec un télescope, mais qu'on peut déjà distinguer dans une simple paire de jumelles pour les plus grosses et brillantes. Fin juillet, la situation aura notablement évolué, avec en début de nuit le Lion déjà à moitié couché, les constellations de l'été déjà bien levées, y compris le Sagittaire, avec le triangle de l'été bien plus haut dans le ciel, Vega étant proche du zénith, c'est-à-dire presque au-dessus de notre tête. Côté planète, le soir, en ce moment, on ne peut pas rater la très brillante Vénus, déjà visible au crépuscule, même si elle n'est pas très haute à l'ouest et descend se coucher assez vite, peu après minuit. Au fil des jours, elle sera de plus en plus basse et se couchera plus tôt, vers 23h fin juillet. En ce moment, on peut encore apercevoir aussi Jupiter au crépuscule, mais bien plus basse que Vénus puisqu'elle se couche une demi-heure plus tôt. Elle quittera le ciel du soir pendant début juillet. On peut encore apercevoir Mercure, moins brillante que les deux autres planètes et plus basse que Jupiter, donc elle disparaîtra encore plus tôt du ciel que la planète géante. Pour les leftos, ou les couches tard, hein, ou très tard, Saturne est visible en deuxième partie de nuit car elle se lève en ce moment vers 2h30 et ce sera dès minuit fin juillet. Elle est suivie par Mars vers 4h en ce moment, 3h à la fin du mois. La planète rouge est bien reconnaissable à sa couleur orangée, mais elle n'est pas très lumineuse, pas plus que les étoiles les plus brillantes, car elle est encore très loin de nous. La prochaine opposition n'arrivant qu'en février prochain, moment où nous en serons le plus proche, à peu près 3 fois plus près qu'aujourd'hui. Avec ce ciel pauvre en planète, il y aura peu de conjonctions observables avec la Lune, en commençant le mercredi 8 juillet, où Saturne sera accompagné par le dernier quartier, puis le samedi 11, où un fin croissant de Lune sera proche de Mars, dans le ciel du matin, après 4h, les deux astres étant dans une région intéressante du ciel, entre l'amas des Pléiades et celui des Iades, dans le taureau. Le jeudi 16 et mercredi 17, on pourra voir au crépuscule un fin croissant de Lune alternativement à droite puis à gauche de Vénus, mais pas très proche, environ la largeur du point bras tendu. Enfin, comme l'été est souvent l'occasion de veiller un peu plus tard et d'observer le ciel étoilé, on aura plus de chances d'y voir des étoiles filantes à partir de la mi-juillet, puisque c'est le début de la période d'activité des fameuses perséides jusqu'à la mi-août. Prétexte à créer en 1991, dans cette période, les Nuits des étoiles, qui étaient appelées Nuits des étoiles filantes à leur début. D'ailleurs, nous aurons l'occasion d'en parler lors de notre prochaine chronique, le mercredi 29 juillet en principe, où nous aurons le plaisir de recevoir les clubs d'astronomie de la région pour nous dire quelles animations ils ont prévues pour cette manifestation nationale programmée le week-end du 7 au 9 août, juste avant la grande éclipse de soleil du mercredi 12. À propos de cette éclipse, dont l'observation nécessite impérativement l'utilisation de lunettes spéciales, qu'on trouve pour quelques euros chez la plupart des opticiens, je tiens à relayer une alerte de l'AFA, l'Association française d'astronomie. En effet, il y a quelques jours, elle a demandé aux autorités le retrait de modèles non conformes à la réglementation qu'on trouve en ce moment dans les kiosques de presse. Il s'agit du modèle accompagnant un petit livret de 16 pages intitulé « Éclipse 2026 hors série premium » présenté sous blister. Je ne peux que déconseiller son achat à nos auditeurs. J'en profite pour rappeler aussi que toutes les solutions artisanales, genre négatif photo complètement noir ou cliché radiologique, voire verre couvert de noir de fumée ou masque de soudeur, sont dangereux car ils ne filtrent pas assez efficacement le rayonnement solaire, les vraies lunettes pour éclipse ne laissant passer que 1/100 millième de la lumière. Et c'est une économie dérisoire car elles sont vendues dans les 2 ou 3 euros et il n'y a pas besoin d'en avoir une paire par personne car le phénomène durant dans les 2 heures et évoluant très lentement, on peut se les passer entre membres d'une même famille pour jeter un œil au soleil de temps en temps. Bien entendu, de simples lunettes de soleil conviennent encore moins.
Voilà, merci Michel pour cette belle chronique. Un dernier mot, on se revoit fin juillet. On a un petit peu décalé pour des raisons évidentes liées aux températures. Un dernier mot, Michel ?
Rien de spécial. On aura, je pense, comme d'habitude, Corinne, Serge de la Dream Team, de Vega de la Lire et je ne sais plus son nom, mais un représentant de la SAB. Pour nous dire ce qu'ils vont faire pour les Nuits des Étoiles. Et comme d'habitude, il y aura sûrement beaucoup de points où le public pourra être accueilli, observer le ciel à l'œil déjà pour reconnaître les constellations et avec des télescopes pour voir les fameuses nébuleuses, amas d'étoiles, galaxies dont j'ai parlé un peu plus tôt.